Accent d'Europe, Clémence Pénard.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis l'entrée de la Croatie dans la zone Schengen le 1er janvier dernier, le passage de la frontière croate est devenu encore plus difficile pour les migrants bloqués en Bosnie-Herzégovine. La police croate est régulièrement accusée de violence envers les personnes qui tentent d'entrer illégalement en Union européenne et depuis quelque temps, elle s'appuie sur un nouvel accord bilatéral pour les renvoyer en Bosnie-Herzégovine. À Bihać, la grande ville bosnienne de la région, des ONG viennent en aide à ces personnes qui fuient leur pays. Le reportage de Louis Seyé.
Elles ont été creusées à la va-vite dans une partie isolée du cimetière et près des poubelles. Plantées sur des monticules de terre, la vingtaine de croix de bois peintes en vert n'affiche aucun nom. Dans le fond, à quelques kilomètres seulement, se dresse l'imposant massif du Plješevica qui sépare la Bosnie-Herzégovine de la Croatie. Sylvia Maraone est la directrice du projet Ipsia, qui vient en aide aux personnes migrantes dans le nord-ouest de la Bosnie.
Nous sommes dans le cimetière de la ville de Bihać, dans un coin oublié où sont enterrés les corps des migrants qui ont perdu la vie au cours de leur voyage migratoire. Ce sont des gens qui n'ont pas de nom sur leur tombe. Seuls quelques-uns d'entre eux ont été identifiés et ont donc eu droit à un monument en leur mémoire.
Depuis 2016, des dizaines de milliers de personnes transitent par le nord de la Bosnie dans l'espoir d'entrer illégalement en Union européenne. Le passage de la frontière croate est dangereux, à travers des forêts denses et jalonnées de cours d'eau, parfois torrentiels. Responsable du service de secours en montagne à Bihać, Ermin Lipovic est régulièrement confronté à des tragédies humaines.
Encore hier, un événement malheureux est survenu quand des migrants ont tenté de franchir la frontière entre la République de Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie. Un migrant originaire du Congo a trouvé la mort. En fait, cela s'est très probablement passé côté croate dans le canton de Zadar.
Selon Frontex, sur les deux premiers mois de l'année, près de 8400 personnes ont tenté d'entrer illégalement par la route des Balkans. Des Afghans pour la plupart, mais aussi des Syriens ou des Kurdes. S'ils sont majoritaires, les jeunes hommes ne sont pas les seuls à tenter cette traversée risquée.
Il y a aussi de très jeunes familles. Nous avons eu des cas où on a même vu des bébés allaités dans les bras de leur mère, des enfants qui étaient venus au monde juste quelques jours auparavant. Ce sont des situations difficiles. Et c'est dur à voir, des gens qui sont à ce point désespérés et qui essaient de traverser la frontière juste pour arriver en Europe, en mettant leur vie en danger, mais aussi celle de leurs enfants. Alors nous, on essaye de les aider en leur fournissant de la nourriture, de la chaleur, des vêtements, etc.
Avec son entrée dans la zone Schengen le 1er janvier dernier, la Croatie a bénéficié d'investissements importants dans du matériel de pointe pour renforcer ses contrôles aux frontières. Depuis plusieurs années, sa police est régulièrement accusée de violence par les ONG qui dénoncent la pratique illégale des pushbacks, ces refoulements directement à la frontière. Originaire du Panjshir, une région afghane frappée de plein fouet par la répression meurtrière des talibans, Takuor a été récemment renvoyé dans un camp de réfugiés en Bosnie.
La police croate est l'une des pires au monde, parce que quand les policiers vous attrapent, ils vous frappent, ils vous prennent tous vos vêtements, votre argent, votre téléphone, et après, ils vous renvoient en Bosnie ou en Serbie. Je veux aller dans des pays d'Europe de l'Ouest, parce que ce n'est pas une vie ici, dans ce camp. Il n'y a pas d'activité, pas de travail, pas d'école. Dormir et manger, c'est ma vie en Bosnie.
Ces renvois par bus de centaines de personnes migrantes, ils seraient de plus en plus fréquents ces dernières semaines selon les médias locaux. Les autorités croates mettent en avant un accord bilatéral récemment signé avec Sarajevo qui officialise ces refoulements vers la Bosnie-Herzégovine, pays non membre de l'Union européenne. Mais selon les défenseurs des droits humains, cette nouvelle politique ne dissuadera pas les migrants de poursuivre leur route.
Depuis environ un an, la situation évolue. La police croate exerce moins de violence à la frontière et les soi-disant réadmissions ont commencé le mois dernier, c'est-à-dire l'application d'un accord par lequel la Croatie renvoie des personnes vers l'État bosnien par l'intermédiaire de la police des frontières. Mais encore aujourd'hui, il y a des milliers de personnes en Serbie et en Bosnie qui essaient de passer par la Croatie et de se rendre dans les autres pays européens.
Selon le Conseil danois pour les réfugiés, entre janvier 2020 et décembre 2022, la police croate aurait procédé à plus de 30 000 refoulements à la frontière de l'Union européenne. Dans 13% des cas, ces renvois, souvent violents, ont concerné des enfants et des familles.
Début mai, l'ONG CAFI, qui regroupe plusieurs associations, dont Amnesty International, a publié son dernier rapport sur la situation de la frontière franco-espagnole. Elle y dénonce des violations des droits fondamentaux, des contrôles discriminatoires et des refoulements directs sans possibilité de demander l'asile. Des procédés qui ont provoqué de graves accidents et même des morts, les précisions d'Élise Gazangel.
Les contrôles de plus en plus stricts à la frontière franco-espagnole conduisent les migrants à entreprendre des chemins de plus en plus dangereux. Et selon le récent rapport de l'ONG CAFI, qui regroupe plusieurs organisations, dont Médecins sans frontières ou le Secours catholique, au moins 12 personnes sont mortes en tentant d'entrer en France depuis l'Espagne et plusieurs ont été blessées entre 2021 et 2022. Pour l'organisation, ces drames sont la conséquence directe de l'intensification des contrôles à la frontière ces dernières années, au nom de la lutte contre le terrorisme. Certains points d'accès ont même été fermés depuis fin 2020, alors que les forces de l'ordre aux frontières ont été doublées par le président français. Pour éviter ces contrôles, interpellations et refoulements, plusieurs traversées sont donc désormais privilégiées par les personnes migrantes. En montagne, dans les Pyrénées, via des sentiers d'altitude élevée, à la nage, en traversant le fleuve Bidasoa au Pays Basque, ou en suivant les voies ferrées, en passant notamment par le tunnel ferroviaire entre Portbou et Cerbère, où la SNCF a installé des barbelés qui blessent régulièrement à 100 ceux qui s'y aventurent. Fauchés par des trains ou emportés par le fleuve, ces 12 morts ne semblent pas émouvoir pourtant les pouvoirs publics qui ne prévoient aucun changement quant à la défense de la plus longue frontière terrestre de la France hexagonale.
Alors qu'en France, le texte sur la réforme des retraites est censé être débattu le 8 juin prochain à l'Assemblée nationale, en Pologne, on essaye de ne pas trop y penser. Leurs pensions trop faibles, plus de la moitié des Polonais sont convaincus qu'ils devront travailler après l'âge légal de départ à la retraite. Une période difficile pour ces aînés qui tentent de s'en sortir comme ils le peuvent. Martin Chabal.
Le repos promis à la retraite est bien souvent une illusion pour beaucoup de Polonais. Après une carrière qui se termine légalement à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, ils sont de plus en plus nombreux à reprendre le travail ensuite. Faute d'argent, en grande majorité. Parce que si certains retraités ont simplement du mal à quitter le monde du travail qui leur offre relations sociales et apprentissage réguliers, c'est pour beaucoup parce que les pensions sont trop faibles. C'est le cas de Jadwiga, qui tient un stand de fleurs et de petites décorations de pacotille à la sortie d'une bouche de métro de Varsovie. Elle a repris le travail pour compléter sa retraite.
J'ai 65 ans. Je travaillais déjà ici avant, mais je n'ai qu'une pension de 580 zlotys, environ 130 euros par mois. Donc forcément, ce n'est pas assez pour vivre. C'est pour ça que je travaille encore.
Une indemnité de retraite extrêmement faible due aussi à sa carrière interrompue par l'arrivée de ses enfants. À une époque où le modèle familial était encore très traditionnel, elle a dû s'occuper des enfants et de la maison et n'a travaillé que 5 ans. Et Jadwiga ne se fait aucune illusion, sa pension de retraite ne sera jamais revalorisée.
L'État pourrait augmenter un peu les pensions, mais ce n'est pas une option ici. L'État n'augmente jamais les retraites. Donc j'aime bien être avec les gens ici, et les fleurs sont jolies, c'est vrai.
La sécurité sociale polonaise elle-même préconise de travailler plus longtemps pour avoir une retraite décente. Un message que prennent à la lettre certains Polonais. Le Polonais qui touche la plus grande pension de retraite du pays est un homme de 90 ans qui a pris sa retraite à 86 ans, après une carrière de plus de 62 ans. Il toucherait environ 9500 euros par mois maintenant. Mais la grande majorité des Polonais ne touchent pas ce genre de montant. On retrouve les fleurs à quelques pas de l'étal de Jadwiga. Une femme de 87 ans qui se tient debout à côté de son petit caddie tient un bouquet de fleurs à la main. À 87 ans, Maria n'a pas repris un emploi, mais elle propose tout de même des fleurs aux passants contre un peu d'argent.
J'ai travaillé dans les bureaux pendant 40 ans. J'ai une retraite normale, mais pas suffisante pour vivre. Et ma famille ne peut pas m'aider parce que nous venons de la classe ouvrière.
Une situation compliquée, aggravée par la guerre en Ukraine. La Pologne a connu des taux d'inflation records, ce qui a eu un impact énorme sur les retraités ici. Même pour ceux qui ont des pensions de retraite correctes, comme c'est le cas d'Anna et de son mari Grzegor.
Le beurre coûtait 4 ou 5 zlotys, environ 1 euro. Maintenant, il en coûte 12, 13. Pour le pain, c'est la même chose. Mais pour tous les autres produits aussi. J'avais l'habitude de faire mes courses sans trop me poser de questions. Maintenant, je dois tout compter avec un crayon à la main.
Certains ont trouvé la parade à ces prix qui grimpent. Luciana prend ses repas dans un bar mechni proche de chez elle. Ces bar à lait en français, vestiges de la période soviétique, sont des petits restaurants qui offrent des plats copieux et économiques à leurs clients.
Les gens que vous voyez ont entre 80 et 95 ans et ont de faibles pensions. Ici, les gens viennent parfois avec leurs vieilles casseroles pour avoir des repas chauds et pas chers.
Mais pour Luciana, le gouvernement national conservateur au pouvoir depuis 2015 fait beaucoup pour aider les gens comme elle.
Avant, c'était une tragédie, ces gens mouraient de faim. Mais aujourd'hui, l'aide fait beaucoup de bien. Je pense que notre gouvernement actuel fait beaucoup. Il verse maintenant un 13e et un 14e mois de pension.
Un soulagement bienvenu pour un grand nombre de retraités, même si cette mesure est extrêmement coûteuse pour l'État. Du côté des plus riches, qui n'ont pas de problème avec les montants de leur retraite, on a suivi les conseils de l'ancien ministre de l'économie qui ne croyait pas au système des retraites lui-même. Ils ont investi, souvent dans l'immobilier, pour avoir un revenu complémentaire. Mais par les temps qui courent, il est devenu quasiment impossible d'acheter une maison ou un appartement. Les prix ont explosé, de plus en plus de monde cherche à se loger, et les taux des prêts ont atteint 8 voire 9%. Dans ces conditions, ceux qui avaient acheté récemment ont dû revendre leurs biens pris au piège par des taux d'intérêt variables. Les mensualités qu'ils remboursaient il y a 4-5 ans ont parfois doublé ces derniers mois. Impossible de garder cet emprunt dans le contexte actuel.
The Prime Minister Rishi Sunak has written to the Home Secretary Suella Braverman that is to make clear that following an investigation he does not believe that Suella Braverman has broken the ministerial.
La controversée ministre de l'Intérieur britannique ne fera finalement pas l'objet d'une enquête interne. Suella Braverman était accusée d'avoir cherché un traitement de faveur après un excès de vitesse. Son sort en suspens, Marie Billon a passionné les foules.
Elle a avoué être obsédée par l'idée de voir des avions s'envoler vers le Rwanda transportant des immigrés illégaux loin du sol britannique. Avec cette déclaration, Suella Braverman a cimenté l'an dernier sa réputation et son surnom de Cruella Braverman. La ministre de 43 ans, à l'ascension fulgurante, est à la droite du parti conservateur. Fille unique d'un couple d'origine indienne ayant émigré du Kenya et de l'île Maurice, Suella Braverman a grandi dans une famille proche du parti conservateur. Elle a fait de brillantes études de droit avant d'être élue députée en 2015. Elle a depuis tenu plusieurs postes au sein du gouvernement. Elle détient le record du plus court passage au ministère de l'Intérieur depuis le début du 19e siècle. En octobre dernier, elle a dû démissionner du gouvernement de Liz Truss après avoir enfreint le code ministériel en utilisant son mail privé pour envoyer des documents officiels. Mais à son arrivée à Downing Street fin octobre, Rishi Sunak l'a à nouveau nommé au même poste et ces derniers jours, il a décidé de ne pas tirer le fil de cette histoire de stage à la sensibilisation routière. Mais la ministre reste rarement loin des controverses. Elle a notamment été accusée de racisme il y a quelques semaines lorsqu'elle a fait un amalgame avec les hommes pakistanais vivant au Royaume-Uni et un réseau de pédophiles ayant tous cette origine. Ses compétences sont régulièrement remises en cause au sein même de son propre parti, mais pour la frange ultra-conservatrice des Tories, elle est un atout, une femme conservatrice issue de la diversité. Pour les conservateurs les plus progressistes, elle est un danger qu'il vaut mieux garder proche de soi plutôt que d'en faire un électron libre. Oh,
En Suisse aussi, des politiques suscitent la controverse. La semaine passée, une école près de Zurich a dû annuler en catastrophe une journée du genre. L'établissement a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Et tout est parti donc, Jérémy Lanche, d'un tweet d'un député.
Un député de l'Union démocratique du centre, le grand parti populiste de droite, très puissant surtout dans la partie germanophone de la Suisse. Andreas Glarner, c'est son nom, s'est insurgé sur Twitter de l'organisation de cette journée du genre dans l'école publique de la ville de Stafa, y voyant un endoctrinement de la jeunesse à l'idéologie transgenre. Les mots viennent d'un communiqué de l'UDC. Il n'en fallait pas plus pour que l'école reçoive un torrent de messages haineux et donc des menaces. La journée a été annulée par sécurité, mais la commune a très peu apprécié d'être pointé du doigt par le parlementaire, expliquant que la journée était organisée sans problème depuis 10 ans et que les questions de genre et d'égalité étaient au programme de toutes les écoles de Suisse alémanique. L'affaire pourrait être anecdotique, mais elle témoigne de la volonté de l'UDC d'imposer ses thèmes de campagne à quelques mois des élections fédérales en Suisse.
Veste de cuir noir, brassard au bras gauche, cheveux blonds platine soigneusement gominés en arrière. En Russie, le clip du chanteur Shaman, publié en avril, a fait grand bruit car le style adopté par l'artiste évoque le vestiaire des néo-nazis. Léo Vidal-Giraud.
C'est un clip qui se voulait patriotique. Sur fond de place rouge, de bulbes dorés et de ciel bleu, la chanson s'appelle Mui, nous, en russe, et ses paroles ne sont pas franchement subtiles. Nous, c'est pour toujours dans notre sang. Nous sommes invincibles, Dieu est avec nous. Entre cela et l'esthétique franchement néo-nazie de l'interprète, le malaise est total, même parmi pas mal de propagandistes russes. Car quand on prétend dénazifier son voisin, ce style fait vraiment mauvais genre. Mais finalement, c'est l'aboutissement logique de la trajectoire de Shaman depuis février dernier.
Parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai.
On le surnomme parfois la voix de l'opération militaire spéciale. Shaman, c'est un auteur, compositeur et interprète, complètement anonyme avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il s'est depuis illustré par une série de chansons ultra-patriotiques. En vrac, « Levons-nous »,« Je suis russe » ou encore « Ma Russie ». Et il est bien aidé par la disparition du paysage médiatique russe de nombreux chanteurs qui s'étaient, eux, opposés à la guerre.
Oui, car l'invasion russe de l'Ukraine a provoqué beaucoup de remous dans les milieux artistiques.
Et c'est particulièrement vrai chez les chanteurs. Beaucoup ont dénoncé, ont protesté et en ont payé le prix. Boris Grebenchikov, par exemple, l'un des pionniers du rock russe, qui a déclaré « Ce qui se passe est une folie, les gens qui ont lancé cette guerre sont fous, ils sont la honte de la Russie ». Pour cette prise de position, il a vu ses concerts annulés, il a été menacé de poursuites pénales et il a dû quitter la Russie. Et ils sont nombreux dans le même cas. Des vieilles gloires du rock russe ou des rappeurs, des anciens, des modernes, ils ne peuvent plus se produire en Russie. Parfois ils risquent la prison, ils ont dû partir à l'étranger et chantent désormais devant des foules de Russes, exilés comme eux.
Et ce grand départ a donc créé un appel d'air en Russie.
Oui, un appel d'air dont Shaman a profité. Depuis février 2022, il est partout. Il a donné des concerts dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Il rencontre des soldats russes, il a même été dans la zone occupée de la région de Kherson. Et puis surtout, il est de tous les Poutings. C'est comme ça qu'on surnomme en Russie les meetings de soutien à Vladimir Poutine. Ils sont en général organisés à grand renfort de chanteurs et de personnalités du sport ou de la culture, généreusement rémunérés. On va aussi y voir des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes dans le public, qui sont soit des figurants payés à l'heure, soit des petits fonctionnaires, des employés d'entreprises d'État que leur employeur force à venir. La plupart du temps, les chanteurs qui se prêtent à ce jeu sont des gloires télévisuelles sur le retour, des gens comme Oleg Gazmanov ou Grigory Leps, dont le public a souvent largement dépassé la cinquantaine. Avoir quelqu'un de jeune, comme Shaman, qui n'a que 31 ans, c'est aussi une façon d'essayer de s'adresser à une autre génération.
Et ça fonctionne ?
Eh bien, c'est difficile à quantifier, mais un sondage récent faisait de lui le deuxième chanteur le plus populaire de Russie en 2022, et ses clips dépassent souvent le million de vues sur YouTube. Mais ce sont deux indicateurs faciles à falsifier. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça fonctionne très bien pour la carrière de Shaman.
Merci Léo Vidal-Giraud. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez notre émission en intégralité en podcast sur l'application Pure Radio et sur le site rfi.fr. Et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. À bientôt.